Donc je vais dire quand même quelques mots sur l'Institut Fresnel et vous dire ce que l'on y fait. Alors, beaucoup de choses qui tournent autour de l'optique, sous toutes ses formes. J'entends par là qu'il y a des gens qui font des expériences. Alors ceux-là, ils sont en général, parce qu'ils ont des bancs optiques, des choses très lourdes, ils sont au rez-de-chaussée. Et plus on monte, et plus on a des gens qui s'éloignent, en gros, de l'expérience. Et je fais partie de ces gens-là. Je m'étonne toujours que la physique, je dis ça en m'amusant, bien entendu, parce que je sais que la physique est une science expérimentale, mais que l'on... l'équipe dans laquelle je suis, nous faisons essentiellement des choses théoriques et des expériences numériques. Voilà. Alors, en l'occurrence, j'appartiens au groupe Clarté. Là aussi, c'est, vous savez, il faut absolument employer des acronymes, sans quoi ça n'est pas bien. Et ce que vous voyez ici, les trois dessins qui sont là, eh bien, ce sont des figures qui sont issues de calculs numériques. Autrement dit, qui ne sont pas liées à des expériences faites sur un banc optique, par exemple. Alors ici, vous avez, par exemple, une lentille un peu bizarroïde, qui est une lentille plate. Et justement, ce que vous voyez ici, c'est la simulation d'un métamatériau. J'en reparlerai tout à l'heure. Ici, on a un champ électromagnétique à l'intérieur d'une fibre optique un peu particulière, qui est une fibre optique à cœur. Vous voyez, ici, à cœur creux, avec des petits trous faits dans la silice. J'en reparlerai aussi un petit peu. Et ici, c'est un dessin que m'a donné un collègue, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc je ne vous en dirai rien. Alors, question en latin, n'est-ce pas, cette saison, le physicien s'interroge, et quand il s'interroge, il dit quid. Alors, qu'est-ce que la lumière? Ça, c'est un vaste débat. Et la lumière peut être vue de beaucoup de manières différentes. On peut le voir comme un objet purement quantique. On peut le voir comme un objet fait de rayons. Pour ce qui me concerne, la conception que j'en ai, c'est essentiellement un champ électromagnétique qui est régi par les équations de Maxwell et dont je ne dirai pas grand-chose. Les équations de Maxwell sont des équations assez compliquées et qui sont des équations mathématiques. Et je me suis fait violence pour faire en sorte que n'apparaisse aucun signe bizarre ce soir. Voilà. Donc, je ne vous présenterai pas Maxwell et ses équations. Et donc, dans une certaine gamme d'énergie, les équations de Maxwell permettent de bien comprendre ce qu'est la lumière. Et le champ électromagnétique est donc en quelque sorte codé par les équations de Maxwell que je ne présenterai pas ce soir. Et ces équations de Maxwell sont des équations très générales. Il y a ce qu'on appelle des relations constitutives qui disent en gros dans quel matériau on est. Il est clair que la lumière ne se propage pas de la même manière dans le vide ou sur cette table ou sur vous, que sais-je. Donc il faut caractériser les matériaux et le codage en quelque sorte de ce matériau se fait par ses propriétés électromagnétiques. Il y a une caractéristique électrique qui est appelée permittivité et une caractéristique magnétique qui est appelée perméabilité. Alors, avant d'en venir à la cape d'invisibilité, je voudrais vous parler d'une histoire. J'ai mis histoire avec un petit H, parce que c'est la nôtre. Et je vais vous dire pourquoi je vais vous parler de cette histoire, c'est qu'elle elle est très révélatrice de la manière dont procèdent les scientifiques et qui est en ce moment mise à mal, soit dit en passant, par l'obsession délirante de certains politiques qui souhaiteraient que les scientifiques soient, comment dire, qu'ils leur disent à l'avance ce qu'ils vont faire. C'est une absurdité complète, mais lorsqu'ils s'en apercevront, peut-être que ce sera trop tard. Alors j'ai en mémoire ce que disait Picasso, un être merveilleusement pénible, mais merveilleux quand même. Il disait, si je sais ce que je vais faire demain, alors à quoi bon le faire ? Bien, je pense qu'un véritable scientifique doit avoir aussi cette attitude-là. Toutes les personnes qui sont ici et qui ont maille à partir avec les ANR, l'ARS et compagnie, savent de quoi je veux parler. Alors, je vais vous parler de cette petite histoire. Il se trouve que une de nos spécialités au groupe Clarté, c'était d'étudier les fibres optiques. Et alors, il y a une certaine catégorie de fibres optiques qui est apparue, qui est appelée fibre optique microstructurée. Alors, vous avez vu une fibre optique, c'est, on va dire, une fibre de silice, complètement ordinaire, à savoir que quand on regarde la section droite, c'est juste un disque de silice. Et il y a des gens, à un moment, qui se sont dit, tiens, si je fais des trous à l'intérieur, est-ce que je vais modifier la propagation du champ électromagnétique, les modes, etc. Et si oui, comment? Alors, c'est ça la question. Là, ces petites barres là, sont censées être les trous que l'on fait dans la tige. Mais au début, faut bien comprendre comme qu'une une fibre optique, c'est 50 microns ou 100 microns l'ordre de grandeur, c'est-à-dire la taille d'un cheveu. Et puis après, il faut faire des trous dans les cheveux, dans le sens du cheveu. Donc vous voyez que ce n'est pas complètement trivial et qu'il a fallu attendre un certain nombre de temps avant de pouvoir faire des choses pareilles. Mais on y arrive. Et alors au début, il s'agissait donc de faire des trous. Et puis une des technologies, c'est d'étirer la fibre. Et cette fibre-là était mise sur un tambour. Et quand elle est mise sur un tambour, il se trouve que cette fibre se tord, comme ceci. Quand vous avez une fibre dans laquelle il n'y a pas de trou, le fait de le tordre, c'est invariant par rotation, ça ne change rien. Mais quand il y a des fibres, et quand il y a des trous à l'intérieur, ça pose problème. Alors ça donne quelque chose comme ceci. Alors là, c'est très exagéré, hein. La torsion est évidemment très exagérée, puisque la torsion se fait sur quelques centimètres, par exemple, quelque chose comme ça. Bon, vous savez sans doute, enfin un certain nombre d'entre vous savent que les longueurs d'onde, je vais en reparler, hein, associées à la propagation du champ électromagnétique à l'intérieur de ces fibres, c'est de l'ordre du micromètre, un 22 microns. Bon. Et il se trouve que, donc, au début, on pensait que les torsions qui étaient comme ceci empêchaient la propagation de la lumière. Il se trouve que, précisément, comme on perd l'invariance par translation de la fibre, eh bien, on ne peut plus employer la méthodologie classique. Et une méthodologie qui vient à l'esprit, c'est de se dire, bon, bah, certes, ça n'est plus invariant par translation, mais il y a une périodicité, comme on voit ici. Là, on retrouve... après un certain, comment dire, une certaine période qui est précisément comme ceci, la même chose. On va se servir de cette périodicité et on va utiliser une théorie qui est bien connue, à savoir la théorie de Bloch. Bon, mais le problème, c'est que théoriquement, ça marche, mais après, il faut faire des calculs sur ordinateur. Et la période... Vous voyez, le rapport entre la période qui est ici et la longueur d'onde peut être d'un million. Donc, la théorie de Bloch est inexploitable. Il a fallu trouver autre chose. Alors, on s'est penché sur la question. avec mon collègue et ami André Nicolet de l'Institut Fresnel. Et nous avons songé à faire des transformations géométriques. Autrement dit, on s'est dit, bien, certes, la fibre n'est pas invariante par translation, mais on ne va pas se mettre dans le repère du laboratoire, si j'ose dire, mais le repère tournant. Et dans le repère tournant, évidemment, par définition, la fibre devient invariante par translation. Le problème, c'est que quand on fait une transformation géométrique, on modifie les permittivités et perméabilités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aurais pas dû encore changer le. J'aurais dû rester sur le transparent d'avant. Donc on était sur cette dans cet état d'esprit, et nous avons envoyé un article qui n'a intéressé strictement personne. Pour ceux qui savent de quoi il retourne, l'article a dû être cité deux fois. Bon, mais ça fait rien, nous faisons ce que nous aimons, et c'était très bien comme ça. 5 ans après cette histoire, je répète, ça n'intéressait personne, arrive dans mon bureau Sébastien Guénaud, un ancien thésard à moi, qui est allé en Grande-Bretagne chez John Penry. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Britannique qui est assez connu dans ce petit microcosme. Il me dit, dans un état complètement excité, c'est son état naturel d'ailleurs chez lui, il me dit, lis cet article, Penry propose de faire de l'invisibilité avec des idées qui sont à l'intérieur, qui sont décrites dans l'article sommairement. Je lis l'article et je me dis, ah oui, tiens, mais c'est exactement ce que nous faisons. Il n'y a quasiment rien à faire. Je vais voir mon collègue André Nicolet et j'arrive. Alors, le bureau d'André Nicolet, c'est un vrai bureau de physicien. C'est-à-dire, vous avez du mal à entrer tellement il y a de livres, il y a de la poussière un peu partout. Le bureau n'est pas net, vous voyez. Donc, j'entre, je dis, je suis vraiment navré de te déranger. Mais voilà, là, on peut faire un article vraiment intéressant, parce qu'il reprend des idées que l'on a déjà dans un cas juste un peu différent. Et alors, je me souviens toute ma vie de ce qu'il m'a dit. Il regarde l'article de John Penry et me dit, tout de go, c'est une trivialité de la géométrie différentielle. Je lui dis, certes. Alors, c'est des choses très théoriques. Bon. Je lui dis, mais quand même, tu devrais t'y intéresser un peu. Et puis, finalement, je l'embête un peu. Et puis, on fait un article avec Penry, précisément, sur les capes d'invisibilité. Je dis ça parce que vous voyez bien, s'il y a des scientifiques dans cette salle, je sais qu'il y en a, ils savent que souvent, des idées germent de cette manière. Ce n'est pas en allant vers un point fixe que l'on a nommé avant qu'on y va. Ça ne marche jamais comme ça. Il faudra que les hommes politiques, un jour, ceux qui nous donnent de l'argent avec une générosité sans pareil, le comprennent. La recherche, l'art aussi d'ailleurs, soit dit en passant, ne fonctionne jamais comme ça. Bon, enfin, vous avez compris, j'essaie de faire passer un message, si vous ne l'avez pas compris, il est même pas subliminal. Bien. Alors, je vais revenir maintenant au principe d'équivalence. Alors, c'est ce que je vous ai dit, il s'avère que on peut montrer de manière très théorique qu'il y a un principe d'équivalence entre une transformation géométrique, c'est-à-dire le fait représenter un point dans l'espace de différentes manières, je dirais entre guillemets dans différents langages, et le fait de modifier le codage dont j'ai parlé tout à l'heure, la permittivité et la perméabilité. Le grand principe de l'invisibilité, il est là. Voilà. Et c'était déjà en germe dans l'esprit de Kepler. Alors maintenant, je vais revenir à des choses plus terre-à-terre et je vais déjà vous dire ce que moi j'entends par « voir ». Ça a longtemps fait débat. Si vous regardez « De natura rerum » de Lucrèce, il avait déjà des idées sur l'optique qui étaient évidemment complètement délirantes, on le sait aujourd'hui. Et alors ce que j'entends par « voir », c'est la chose suivante. C'est que ici, vous avez reconnu cette laitière qui est souvent sur des pots de yaourt. Et si je vois la laitière en question, c'est qu'il y a de la lumière qui vient de la fenêtre ici, se réfléchit donc sur le visage de cette charmante demoiselle. Et une partie de cette lumière, une partie du champ électromagnétique, vient dans mon œil et après le cerveau fait des choses dont je ne parlerai pas parce que c'est très compliqué, évidemment. Voilà ce qu'est l'hypothèse traditionnelle de la lumière. Alors il y a quand même des cas un peu plus compliqués que celui de Perrette, hein ? À savoir que je vais aller peu à peu, évidemment, vers des situations plus compliquées que les situations traditionnelles qui font que je vous vois tous. Moi, je l'espère. Alors, je vais commencer par un phénomène que vous connaissez sans doute tous, le mirage. Alors, de quoi s'agit-il ? Bien, là, vous voyez un dromadaire qui a fait son chemin de Damas et s'interroge, entre autres sur les horreurs qu'il a vues, et s'interroge encore plus parce qu'il a l'impression de voir à la fois cet arbre-là et puis une image qui semble être le reflet de l'arbre en question sur une mare, évidemment, imaginaire. Alors, d'où vient ce phénomène ? Vous le savez sans doute. Enfin, en tout cas, ce dromadaire aurait été bien inspiré de suivre les cours d'optique de première et de deuxième année de licence. Il aurait appris la chose suivante. Il y a ce qu'on appelle un gradient de température. Autrement dit, ici, le soleil chauffe le sable, et il se trouve que la température proche du sable est plus élevée que la température qui est dans les hauteurs. De sorte que l'air qui y est donc plus chaud. Et l'indice optique est différent selon la hauteur à laquelle vous êtes. Et ce phénomène fait que, eh bien, la lumière ne se propage plus en ligne droite. Alors, d'un certain point de vue de la géodésique, il continue à être dans une ligne droite, mais une ligne droite qui n'est pas celle que l'on observe dans notre monde, entre guillemets, réel. Voilà, donc ici, vous voyez, il y a ici une courbure qui fait que le dromadaire a l'impression, ici, pour les rayons qui font ça, il a l'impression de voir l'arbre deux fois. Alors, il y a une situation similaire dans des contrées plus septentrionales, et cette fois-ci, les choses sont inversées. Alors, évidemment, c'est une situation complètement, qui est presque historique, puisque les ours blancs n'ont plus aujourd'hui de banquise, et comme on le sait, les Inuits n'ont plus d'igloo. Ils préfèrent, bien entendu, les, les baraques si jolies que l'on voit dans le nord du Canada et ailleurs. Bon. Mais bref, c'est une situation historique. Notre plantigrade, là, voit de manière directe l'igloo, et la situation est inversée en ce sens que, dans ces contrées, il fait plus froid proche du sol qu'en haut. Donc la situation est inversée par rapport à son camarade, le vaisseau du désert, de sorte qu'il voit, lui, l'igloo vers le haut. Bon. Alors, peu à peu, on va aller vers le subterfuge complet, et pour cela, je vais prendre trois représentants colorés de la jambe trotte-menue. Et vous savez que ces bestiaux adorent faire des blagues. Et en l'occurrence, ici, on voit un système assez astucieux, il faut bien reconnaître, de miroir. C'est une autre forme de mirage. En l'occurrence, ici, cette souris bleue a l'impression de voir son congénère rose, ici, je dirais pourpre, pour faire dans l'actualité. Et inversement, cette souris-là a l'impression de voir son congénère bleu, de sorte que la souris qui est ici semble complètement invisible. Bon. Alors, ça marche tout simplement par un bête jeu de miroir, comme vous pouvez le voir ici. Un miroir qui est là, ici, et ici. Mais le subterfuge est grossi, en ce sens qu'il suffit que cette souris se déplace, ici, pour qu'elle voie que les choses ne sont pas ce qu'elle avait cru auparavant. Donc, il faut trouver plus efficace que ça. Et c'est précisément de cela dont je vais parler. Alors, l'article de John Pendry qui a mis mon collègue dans une excitation dont j'ai parlé tout à l'heure et qui, par le fait de du côté social de notre métier, fait que l'excitation est arrivée jusqu'à moi qui a tremblé mon collègue, a fait trembler mon collègue. Cet article date donc de 2006 et est paru dans Science. Pour la petite histoire, c'est très bien d'écrire dans Science, c'est bien noté. Donc, dans notre communauté, il est bon, il faut s'exciter toute sa vie pour écrire un article dans Science, puis après mourir éventuellement, aller à Venise ou que sais-je. Bref, enfin, donc, John Pendry, lui, a fait son article dans Science en 2006. Alors, que dit-il? L'idée est très astucieuse. Lui, il part d'un principe optique, considérant que la lumière s'est fait de rayons, entre guillemets. Alors, c'est une approximation qui est excellente lorsque les objets que l'on voit ici sont très grands par rapport à la longueur d'onde. Alors, dans le visible, c'est entre 0,4 et 0,8 micromètres. Je rappelle que 50 microns, c'est la taille d'un cheveu. Donc, en gros, un cinquantième de la taille d'un cheveu. Ça, c'est la longueur d'onde. Si les objets sont grands par rapport à cette longueur d'onde en question, la théorie des rayons, on va dire, est excellente. Alors, vous voyez bien que vous, par exemple, vous êtes évidemment très grand par rapport à la longueur d'onde. La notion de rayon est donc excellente. Et donc, l'idée de John Pendry, c'était de dire, bien, comment fait-on pour faire en sorte qu'une partie de l'espace soit en quelque sorte complètement soustrait au regard? Eh bien, il suffit de déformer ici un matériau, vous voyez, un matériau très spécial fasse en sorte que on déforme les rayons de la manière que l'on voit ici. Et en quelque sorte, vous voyez, tous les rayons passent autour de cette région-là et ce qui est remarquable, c'est que quand on voit ce qui se passe à l'extérieur de ce disque, vous voyez que les rayons ne sont pas déformés. Si les rayons ne sont pas déformés, c'est donc qu'on ne voit pas l'objet. Encore une fois, c'est, bon, pour les scientifiques qui sont ici, c'est une évidence, mais c'est difficile à comprendre. Imaginez, par exemple, que vous soyez sur une rivière et que vous lâchez un caillou dans la rivière, ça fait des ondulations. Bon. Et maintenant, imaginons un instant que vous mettiez un petit rocher qui dépasse dans l'eau, elle va faire des ridules, c'est-à-dire qu'elle va transformer les vaguelettes qui proviennent du caillou qu'on a jeté. Voir, si j'ose dire, la pierre qui dépasse, du point de vue des ondes, c'est dire, ah ben je sais qu'il y a quelque chose parce qu'elle a transformé les ondelettes issues du caillou jeté. Donc toute l'idée, c'est de dire, bon, je vais essayer de faire en sorte qu'autour de la pierre qui dépasse, je mette quelque chose, c'est ça toute la subtilité, qui fait en sorte que, au-delà de la chose que je vais mettre autour du caillou, eh bien, les ondes ne soient pas modifiées. De sorte que, on peut dire dans ce cas-là, on ne les voit pas. C'est de ça dont il s'agit. Bon, ça c'est l'idée de principe, mais après, il faut les mettre en application, notamment sur les équations de Maxwell. Ça a été, c'est une autre paire de manches. Alors, donc je vais revenir à ce dont j'ai parlé tout à fait au début dans ma présentation, c'est le fameux truc de la cape. Car, mesdames et messieurs, évidemment, vous savez sans doute que quand on est un sorcier, c'est très facile, il suffit de demander au père d'Harry Potter et il vous livre un voile qui vous permet de vous soustraire au regard du public. Et moi, je suis un moldu, et dans le monde des moldus, mais malheureusement, c'est plus difficile à faire. Et c'est surtout l'intérêt quand même du monde des moldus, c'est qu'on peut dire comment on fait. Parfois, la sorcellerie, ben, c'est de la sorcellerie, on ne sait pas comment ça marche. Et si on savait comment ça marchait, ça ne serait plus de la sorcellerie. Bref. Alors, en l'occurrence, donc, tout marche autour de deux principes. Une transformation géométrique, et cette transformation géométrique, elle est équivalente à coder les matériaux via la permittivité et la perméabilité de manière différente, avec des lois, c'est ça qui est important, que l'on peut connaître exactement. Alors, prenons une transformation géométrique assez particulière. Vous prenez un disque. Alors, on est... pour l'instant, dans un monde bidimensionnel, ça évite de faire des dessins en 3D, c'est plus compliqué. Et ce que vous faites, c'est que vous allez évider le disque, vous voyez, donc le point rouge devient cette fois-ci un disque qui est là, et vous allez contracter tous les points qui sont là. Par exemple, le point vert va se retrouver ici, et le point bleu va se retrouver là. Ce qui est important, c'est que tout point dans ce disque-là va trouver son analogue dans cette représentation géométrique à droite. Il y a une petite subtilité, ce en quoi mon collègue André Nicolas avait tort, c'est ce que je lui ai dit. Ce n'est pas tout à fait une transformation géométrique, c'est aussi ce qu'on appelle une transformation topologique. On a fait un trou dedans. Au début, là, ici, c'est un disque plein. Là, on a fait un trou. Et on voit bien, d'ailleurs, que ce point-là, sa représentation, ce n'est plus un point, mais un cercle. Donc, ça pose des petits soucis qui sont plus compliqués qu'il n'y paraît. Bref, ça, c'est la transformation géométrique. Donc, vous voyez que l'idée est élémentaire. Mais, Alors, tant qu'on en reste à la transformation géométrique, bah, y a rien à y faire. On dit, bon, bah, très bien, mais encore, l'espace est ce qu'il est, et on ne peut pas jouer dessus. En revanche, on peut jouer sur les matériaux. Et je viens de vous dire qu'il y a équivalence entre une certaine catégorie de matériaux et une transformation géométrique. Voilà. En conséquence, si on a la transformation géométrique, on est théoriquement capable de donner des permittivités, des perméabilités qui permettent de singer cette transformation géométrique. Donc, finalement, si jamais nous avions à disposition ces matériaux, qui sont en fait des métamatériaux, c'est-à-dire des matériaux qui ont des propriétés qui ne sont pas dans la nature directement, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'homme les façonne, eh bien, a contrario, si on avait ce matériau-là, tout se passerait comme si j'avais fait une transformation géométrique. Et par conséquent, tout objet qui est à l'intérieur de cette poche-là ne serait pas vu. Alors, on a voulu quand même faire des calculs sur ordinateur. Et là, la figure que vous voyez est censée être une figure de rayonnement. On imagine ici qu'il y a un point lumineux et qui rayonne de manière isotrope parce qu'on est dans l'espace vide. Bon, on voit un peu comme la pierre donc, que je jette à la surface de l'eau. Et puis on voit ce spectacle tout à fait classique pour les électromagnéticiens que nous sommes. Ensuite, je vais mettre une lettre ici, enfin peu importe, un obstacle, la forme F, F comme Fresnel, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Et évidemment, on voit le F. Alors évidemment, qu'on se comprenne bien, on voit le F, bien sûr, parce qu'il est dessiné ici. Mais du point de vue du champ électromagnétique, on sait qu'il y a quelque chose parce que vous voyez que là, le champ a été modifié. Si le champ est modifié, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose. Voilà. Alors, le cerveau fait bien mieux, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour les petites longueurs d'onde, non seulement il sait qu'il y a quelque chose, mais après, il l'imagine. Il se dit, tiens, il y a un individu. Mais et ça, c'est le cerveau, après, qui fonctionne. Et par exemple, on pourrait parfaitement... Le fait que je sais que, par exemple, Alexandre est à peu près à 3 mètres de moi, c'est parce que je connais à peu près sa taille. On pourrait imaginer un subterfuge, il fait 10 mètres de haut, il est beaucoup plus loin. C'est parce que le cerveau a fait des analyses derrière. Donc, c'est une des difficultés de l'enseignement de l'optique, c'est que ça relève à la fois de la physique, et puis il y a certaines choses qui relèvent de l'œil et du fonctionnement du cerveau. Il ne faut pas tout confondre. Bref, alors après, eh bien, on a mis, vous voyez, un matériau, ici, le fameux matériau ad hoc. Alors, c'est des calculs sur ordinateur, c'est très compliqué, vous ne vous en parlerez pas ce soir, enfin, à moins que... quelqu'un me pose la question. Enfin, bref, toujours est-il que vous voyez que, première chose, la lumière n'atteint quasiment pas, on voit très légèrement des ombres ici, n'atteint quasiment pas le F en question. Et surtout, on voit que, au-delà de ce disque, le champ est celui qu'il y avait avant qu'on mette le F. Donc, on ne voit plus le F. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, mais la distance qu'il y a de là à là, c'est la longueur d'onde. Donc on est dans ce qu'on appelle le domaine résonant. Autrement dit, la longueur d'onde est de l'ordre de grandeur des objets diffractés. C'est beaucoup plus compliqué. Généralement, les choses se passent plus simplement lorsqu'on est dans le domaine dit optique, c'est-à-dire pour lesquels les longueurs d'onde sont très petites par rapport aux objets. Puis à l'inverse, il y a aussi ce qu'on appelle la zone de Rayleigh pour laquelle la longueur d'onde est très grande par rapport aux dimensions caractéristiques de l'objet. Alors en voilà un autre, naissance d'une cape, alors là c'est le niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'évidemment, là c'est donc la cape, vous la voyez, elle est grossière. Harry Potter, il fait bien mieux, puisque c'est la taille de l'épaisseur de sa cape, elle fait un millimètre ou que sais-je. Et alors, on voit évidemment que plus l'épaisseur de la cape est petite, et plus les champs vont être déformés, et sans doute plus ce sera difficile. Et ça l'est, en l'occurrence. Pour les singer, plus elle est fine, et plus c'est difficile. Et en plus, dans ce cas-là, contrairement à Harry Potter, elle n'est pas souple. Elle a les propriétés des matériaux dépendent de la géométrie de la cape. Voilà. On est très loin de ce que fait Harry Potter. Et puis, il y a surtout une chose qui est très embêtante. Si vous avez bien vu, je vous ai dit que à l'intérieur ici, il n'y a pas de lumière. Harry Potter fait plus fort. Non seulement il se soustrait au regard des sorciers malfaisants, mais en plus de ça, il voit à travers la cape. Toute personne qui se mettrait à l'intérieur de cette cape serait aveugle. Et d'ailleurs, quand même, je trouve que c'est exagéré, car voir, c'est absorber. Donc, elle est vraiment magique, sa cape. Parce que si on absorbe, on perd de l'énergie. Si on perd de l'énergie, donc on déforme le champ. Bref, c'est donc une cape forcément active, c'est-à-dire dans laquelle il y a de l'énergie qui est fournie au système. Il est vraiment très astucieux, ce jeune garçon. Et Rowling fait évidemment beaucoup plus fort que nous. C'est la raison pour laquelle elle est mieux payée qu'André Nicolet, moi-même. Alors, maintenant, je vais quand même vous montrer qu'on peut faire des capes de forme quelconque. C'est vraiment pour le... on a voulu se rapprocher un peu de ce que fait Harry Potter. Puis là, bon, alors là, c'est une petite animation. Voilà, on voit une source qui rayonne. Et on voit que, grosso modo, le champ qui est là, à l'extérieur donc, de cette cape-là, n'est pas modifié par... l'obstacle. Ah, alors, nous vivons au troisième étage de l'Institut Fresnel, où nous vivons dans un monde merveilleux de théorie, où tout fonctionne, et merveilleusement. Malheureusement, de temps en temps, on croise des gens qui nous disent « Oui, on fait des expériences, c'est très intéressant, donc on descend, Et alors, ils ont plein de problèmes, paraît-il. Ça ne marche jamais, du premier coup, il y a des appareils qui ne fonctionnent pas toujours. Bon. Et donc, il y a des collègues du rez-de-chaussée qui nous disent « Tout ça, c'est bien gentil, mais après, il faut le faire en pratique. » On dit « Si c'est la réponse d'André Nicolet ou de moi, en général, si ça marche en théorie, c'est que ça doit marcher en pratique. » Et Je conviens que c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Alors, comment peut-on espérer fabriquer une cape? Alors, d'abord, une structuration atométrique, avec deux T. C'est la chimie. Autrement dit, de savoir comment on peut mélanger des atomes, des molécules ensemble. Nous ne sommes pas chimistes, donc ce n'est pas la voie que nous avons sur laquelle nous avons prospecté. Et ce qui est plus intéressant, c'est de faire donc ce qu'on appelle, enfin, du point de vue des physiciens que nous sommes, c'est des nanostructures. Autrement dit, en gros, je le dis à la louche, Vous avez un matériau compact, solide, de la silice, ou ouais, ça, ouais, il y a éventuellement on rajoute de l'or, des matériaux métalliques ou que sais-je, et puis on fait des trous dedans. Voilà. Et alors on peut faire des trous, aujourd'hui c'est la technologie est absolument bluffante, on peut faire des trous dans tous les sens, une précision qui est incroyable. Et donc, en faisant des trous très particuliers dans la matière, dans des blocs de silice, par exemple, eh bien, on peut singer précisément les propriétés des matériaux recherchés. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les matériaux que l'on recherche sont anisotropes, autrement dit, qui n'ont pas la même qualité selon qu'on les regarde dans un sens ou dans un autre. Alors, je vais maintenant passer à l'expérience, je dirais, concrète, si tant est que c'est un sens précis. Et alors, je me suis demandé ce que j'allais mettre comme titre. J'ai mis « L'homme contre la nature », dans tous ses sens. Alors, vous allez voir pourquoi, parce que voilà ce que c'est faire l'homme. C'est déjà remarquable, ça c'est un réseau, hein, donc une structure qui est répétée un grand nombre de fois, et la structure qui est là, qui est de l'ordre de un micromètre, hein, à peu près. Ça, c'est ce qu'on sait faire dans les meilleurs laboratoires. Et dans le laboratoire de la nature, alors, il aura fallu un peu plus d'un milliard d'années, hein, depuis les cellules prokaryotes, pour arriver jusqu'au papillon qui sait faire ça. Alors là, pour l'instant, aucun laboratoire est capable de faire une chose pareille. Je demande d'être admiratif devant le papillon en question. Je crois que c'est un morpho. Donc, vous voyez les structurations, les dimensions sont à peu près les mêmes, là et là. Alors, évidemment, j'ai quand même mis le « c'est » entre guillemets. Peut-être le papillon ne sait-il pas qu'il fait des choses remarquables. Alors, un des intérêts de l'optique électromagnétique, c'est de changer de longueur d'onde. Alors, par exemple, si vous considérez un radar, eh bien, Monsieur le Président, malgré votre retard, je suis très heureux et flatté que vous soyez là. Donc, je disais que si on considère un radar avec des longueurs d'onde métriques, et les longueurs d'onde dont je viens de parler en optique qui sont de l'ordre du micromètre, du point de vue du théoricien, c'est à peu près la même chose. Les équations sont les mêmes. Mais l'intérêt, c'est qu'évidemment, c'est plus facile de structurer la matière à 1 cm, de faire des trous, des dessins avec, que de faire des trous qui font 100 nanomètres. Donc la première des choses que l'on fait, eh bien, c'est de commencer à voir ce que l'on peut faire dans les micro-ondes. Alors évidemment, la notion de voir n'est plus la même, au sens strict du terme, c'est plus l'œil qui observe, mais peu importe, pour le physicien, du moment que l'on peut observer la chose en question, c'est à peu près équivalent. Bon. Donc la première des choses, c'est qu'on a fait ça dans le domaine des micro-ondes, donc Bon, les longueurs d'onde sont de l'ordre du centimètre, et on a fait des structures résonantes, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont permis, alors c'est vraiment les balbutiements là en l'occurrence, à savoir qu'on a mis un objet à l'intérieur, là on le voit mal, mais là il y a un anneau ici, et à l'intérieur on met un objet quelconque, et on l'éclaire, entre guillemets, avec une longueur d'onde qui est de l'ordre de quelques centimètres, et l'objet est effectivement rendu quasiment invisible. Ça a été les premiers essais. Maintenant, il faut. Alors, un des inconvénients de la structure que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est qu'elle ne fonctionne qu'à une seule longueur d'onde. Si vous voulez, dans le domaine de l'optique, c'est comme si ça ne fonctionnait que dans le bleu. C'est-à-dire que le camarade que je vois ici, là, votre camarade qui a un pull bleu, bah, on ne le verrait pas. En revanche, on verrait sa tête. Ce serait assez étrange. Voilà. Donc, pour vous faire une image un peu de la chose en question. Alors maintenant, on va descendre en longueur d'onde pour vous montrer quand même qu'on sait faire des choses d'un point de vue technologique assez remarquables. Voilà, vous voyez ici, ce sont des cellules photographiques. Alors j'ai mes deux mains, bon, elles sont quasiment sur nos appareils photos, notamment celles qui sont intégrées au téléphone d'aujourd'hui. Donc vous avez une lentille ici, hein, ici vous avez une allumette qui est format standard. Voilà. Et donc vous voyez que c'est vraiment minuscule. Et il se trouve que là-dedans, là, tout est embarqué, c'est-à-dire que vous avez à la fois l'optique, c'est-à-dire le système de lentilles, et vous avez aussi ici toute l'électronique qui est derrière et qui tient bon, sur le bout d'une allumette. Alors là, justement, il se passe beaucoup de choses intéressantes pour les électromagnéticiens que nous sommes. Il se trouve que les pixels deviennent si fins que chaque pixel, donc chaque cellule, a des dimensions qui sont comparables aux longueurs d'onde optiques, puisqu'elles font 2 microns de côté. Et là, eh bien, les théories optiques classiques échouent complètement, à savoir que il y a la société Sibios qui était venue nous voir en disant, mais on ne comprend pas, on a un logiciel de tracé de rayons, et ça marchait très bien quand on faisait des pixels de 10 microns, puis ça ne marche plus. Et ben, c'est normal, c'est une bonne nouvelle, c'est normal parce que la théorie des rayons, ben, elle ne marche plus précisément lorsqu'on est dans le domaine de résonance. Alors, ils étaient très inquiets. Ils disaient, mais alors, si notre logiciel ne marche pas, alors comment peut-on faire? Bah, l'Institut Fresnel, entre autres, je sais qu'à Toulon, il y a aussi d'autres personnes qui sont capables de faire ça, il suffit de résoudre les équations de Maxwell. Bon. Bref, ça, c'est ce que fait, encore une fois, ce que fait l'homme, et voilà notre papillon. Ici, donc, est un magnifique morpho dont on a vu les structures des ailes tout à l'heure. Alors, soit dit en passant, je vais peut-être un peu dire deux mots sur ce qu'on entend par couleur. Généralement, la plupart des vêtements que nous portons, si nous voyons par exemple le pull de ce monsieur bleu, une fois encore, c'est parce que il absorbe la lumière. C'est chimique. Absorbe le rouge, le vert, de sorte que mon œil ne perçoit que le bleu. Ça n'est pas la même chose ici. La structure est, comment dire, l'explication est complètement différente. C'est la diffraction qui entre en jeu. Ce n'est pas une question d'absorption. Ce n'est pas une question de chimie, entre guillemets. Alors, en général, comment voit-on la différence? Si on ne veut pas regarder la structure à niveau nanométrique, il suffit de plonger, par exemple, les objets dans de l'eau, typiquement. Si je plonge le pull de monsieur dans de l'eau, bah, l'eau claire, j'entends bien, eh bien, il apparaîtra toujours comme bleu. Si vous plongez ce malheureux animal dans l'eau, en faisant très attention, parce que c'est vraiment très fragile, eh bien, il apparaîtra comme vert. Voilà, la lumière change parce que l'indice optique de l'eau, ben, n'est pas égal à l'indice optique de l'air. Bon, alors, je vous ai dit qu'au troisième étage de l'Institut Fresnel, il y a des gens qui font de la théorie et qui font. Alors, Je dois cette expression à un collègue du CPT, que je trouve très joli, qui font des expériences in silico. Autrement dit, dans la silice, autrement dit, sur des ordinateurs, où le monde est merveilleux. Nous sommes des vrais démiurges, puisque nous avons tout pouvoir sur les équations et que nous manipulons. Bon, maintenant, il faut être un peu plus sérieux. Il s'agit de vouloir le faire en pratique. Alors, il y a beaucoup de difficultés à surmonter. Les obstacles principaux, c'est qu'il se trouve que les matériaux sont anisotropes. Je l'ai déjà dit, un matériau isotrope, c'est un matériau pour lequel, qui n'est pas en quelque sorte modifié en changeant le matériau en faisant une rotation, en quelque sorte. D'un matériau anisotrope, ça n'est plus le cas. Hein. Donc, en quelque sorte, les caractéristiques de l'objet dont vous parlez dépendent de la direction dans laquelle vous regardez l'objet en question. Alors, non seulement il y a une forte anisotropie électrique, mais aussi magnétique. Ça, notamment dans le domaine du visible, ça c'est compliqué, parce qu'on sait que quasiment tous les matériaux entre 0,4 et 0 micromètre ont une perméabilité qui est très proche de 1. Et il faut donc les singer. Contrairement à ce qui se passe pour des longueurs d'onde plus grandes, songer à faire de ce qu'on appelle de la perméabilité artificielle. Et c'est une difficulté supplémentaire. Ensuite, les matériaux sont très fortement hétérogènes. J'entends par là que la propriété optique à l'intérieur de la cape à un endroit n'est pas la même qu'à un autre. Donc on voit bien que la structuration de ces matériaux, si on veut faire donc des métamatériaux, les fameux trous dans la silice, il va falloir faire des trous qui seront différents selon que je serai, par exemple, sur le bord de la cape ou loin de la cape. Vous voyez que ça commence à devenir sérieusement compliqué. Et puis, alors, en plus, il y a ce qu'on a un problème de singularité, c'est-à-dire que le fait que, précisément, ce dont je vous ai parlé, c'est qu'il y a une transformation non seulement géométrique, mais topologique, fait que à l'intérieur, la face interne de la cape, il y a des éléments de la permittivité qui vont tendre vers l'infini, qui sont très, très grandes. En pratique, si vous mettez des grandes permittivités, ça va marcher encore. Hein. Il est évident qu'il n'y a pas de permittivité infinie, mais on peut s'en approcher. Alors, enfin, il y a des gens qui ont beaucoup glosé sur la causalité. Ils disent la chose suivante. Je pense que ça n'est pas un problème. Je vais vous dire pourquoi. L'idée, c'est de dire, de faire contourner donc la lumière dans la cape, mais vous voyez que la lumière ne voyage plus en ligne droite. Elle a donc un chemin qui est plus grand que lorsqu'elle était en ligne droite. Par conséquent, on peut se dire, mais alors, si on veut cela, ça veut dire qu'il faudrait que dans le matériau, elle aille plus vite que dans le vide. Et donc ça n'est pas possible, quoi. Bon. Alors, ça serait vrai si on exigeait du matériau qu'il soit comme ça à toute longueur d'onde, entre 0 et plus l'infini. Mais ce n'est pas ce qu'on demande. On demande juste une fenêtre. Donc, à mon avis, ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Parmi les 5, c'est celui qui posera, à mon avis, le moins de problèmes. Alors, peut-on franchir les obstacles? Après, on rentre dans les détails et dans les raffinements, si j'ose dire, de la méthode. Il se trouve que, en fait, le principe d'équivalence dont j'ai parlé, hein, savoir entre la transformation géométrique et les propriétés des matériaux, ce sont des idées qui sont qui est plus qu'en germe dans la relativité générale. Donc on se dit, bon, on va piocher plein, les idées des gens qui ont fait des travaux dans la relativité générale, en relativité générale. Et bon, en regardant ça d'un peu plus près, on peut, parmi tous les obstacles dont j'ai parlé, il y a un obstacle qui est important et sur lequel on peut faire en sorte qu'il soit enlevé définitivement, c'est le fait que les caractéristiques optogéométriques, selon la permittivité et la perméabilité, ne soient plus infinies au voisinage de la face interne de la cape. C'est quand même déjà un souci en moi. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Éventuellement, si vous avez des questions à poser, je pourrais. Je pourrais en dire un peu plus. Ah, alors, la cape d'invisibilité, un miroir aux alouettes. Bon. Et à quoi peut servir une cape? Alors là, je vous ai dit la dernière fois, tout à l'heure, que avec mon collègue André Nicolet, nous nous amusions, entre guillemets, avec les équations, on faisait des transformations géométriques. On sent bien qu'il peut y avoir des applications. Alors, quand on a fait paraître l'article avec John Pendry, un an après son article de 2006, sur la sphère du web, alors c'était très amusant, il y avait énormément d'articles, notamment anglo-saxons, disant des scientifiques travaillent avec les militaires, on va avoir des applications militaires, etc. Alors, si vous connaissiez l'André Nicolet en question et moi-même, bon, on a peu d'acquaintance avec l'agent de trotte kaki, et donc on s'amusait de tout cela. Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que si tant est que l'on puisse trouver une cape pour un militaire, il serait aveugle, quand même. Il ne verrait rien dans sa cape. Donc, il y a peu de chances que ça serve rapidement, en tout cas, dans les opérations militaires futures. Bon, enfin, sait-on jamais. Bon. Alors, évidemment, les idées qui sont en germe dans cette théorie, elles peuvent parfaitement s'appliquer à d'autres formes d'ondes que les ondes électromagnétiques. Bon, alors, j'ai des collègues qui ont travaillé notamment sur des capes d'invisibilité à vagues. Alors, l'intérêt, c'est que, encore une fois, les longueurs d'onde étant beaucoup plus importantes, c'est plus facile de structurer la matière. Alors voilà, en gros, la même chose, si vous voulez, dans le cadre de l'hydrodynamique. Donc ici, vous voyez, ici, c'est censé être la cape, qui est une cape assez lourde, vous en conviendrez, hein, c'est des plots. Et la zone qui est ici est une zone, normalement, qui serait une zone de calme. On peut imaginer que si on met un bateau ici, qui a une forte tempête, eh bien, il serait tranquille à l'intérieur de la structure qui est ici. Bon, on sent bien quand même qu'il y a des limites à cette opération, savoir que si vous avez un bateau qui fait 30 mètres de long, on voit bien que la structure serait quand même relativement imposante. Et donc, je ne suis pas certain que l'utilité soit grande. Bon, enfin, ça marche bien. Et un des intérêts, c'est de voir la manip, qui est relativement simple. Hein. Ça se fait dans un bocal, quoi. Enfin, c'était des expériences à pas cher, hein. Voilà, en quelque sorte. Merci d'être passé me voir. Et évidemment, j'en ai fini sur la première partie. Je serai ravi de répondre à vos questions.